RCF.
Depuis quelques décennies seulement, l'enfant est véritablement considéré comme une personne à part entière, une personne juridique qui a des droits. Au point, quelquefois, qu'on a même parlé d'enfant roi. On va, avec vous, Catherine Rollet, essayer de comprendre quelle a été la place de l'enfant dans la société occidentale à travers les siècles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et démographe, plutôt spécialiste de l'histoire contemporaine, mais nous allons essayer de retracer un panorama plus large, bien sûr, de cette histoire de l'enfant. Quel est l'intérêt qu'apporte ce thème particulier lorsqu'on est historien ?
C'est vrai que c'était un sujet, je dirais, vierge. Et donc, ça a été une véritable découverte de voir qu'avec des matériaux archéologiques, littéraires, des traités de médecine, des textes de loi, eh bien, on pouvait véritablement ressusciter cette enfance à travers l'ensemble des siècles.
Pourquoi un sujet vierge, d'après vous ?
Pourquoi un sujet vierge ? Parce que l'enfant, comme d'autres catégories de la population, était pensé comme mineur, donc comme soumis au pouvoir des adultes, et leur survie aussi était très fragile. Dans le fond, c'est l'âge de la vie qui est le plus vulnérable. Et donc, pendant des siècles, eh bien, par une certaine forme de sagesse et de réalisme, on s'est intéressé à l'enfance, mais pas autant que depuis que la mortalité des enfants diminue, le 19e et le 20e siècle.
Et puis que les sciences humaines ont permis de découvrir un certain nombre de choses concernant le psychisme de l'enfant, l'importance de la construction de la personne dans cette tranche d'âge, disons, de 0 à 12 ans.
Oui, c'est ça. On a découvert toutes les facettes, en fait, de l'enfance, son corps. On a découvert ses capacités motrices, ses capacités intellectuelles, ses capacités langagières et toute la sphère des émotions, de la sphère cognitive. Ces dernières découvertes sont évidemment très récentes. Même si les anciens avaient une certaine forme de connaissance là-dessus.
Catherine Rollet, nous allons commencer par évoquer la période antique, parce que le mot même « enfant » a bien sûr ses racines dans l'Antiquité. Le sens véritable de ce mot est important et très significatif déjà.
Vous avez raison de commencer par là, puisque dans le fond, nommer quelqu'un, etc., fait partie de son identité. Et « infans » vient du latin, le privatif « in », et le mot qui signifie parler. Donc, infans, c'est celui qui ne parle pas, qui ne sait pas parler. Donc, celui qui ne sait pas parler, c'est un être qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé, un mammifère dont il faut prendre soin pour qu'il puisse marcher, parler, etc.
L'élever, donc.
Voilà, l'élever, oui, c'est ça.
RCF, Véronique Alzieux.
L'environnement de cet enfant dans l'Antiquité, il faut le noter, c'est une société esclavagiste où seule une petite minorité, les citoyens, ont le pouvoir. Les autres sont des esclaves ou bien des étrangers dits métèques à Athènes. Cette situation va avoir des conséquences sur la manière d'élever justement les enfants.
C'est-à-dire ?
Parce que à Rome, par exemple, mais aussi en Grèce, souvent les mères délèguent leurs fonctions de soins et même d'allaitement à des nourrices qui sont des esclaves, qui vivent à domicile dans la familia. La familia à Rome, c'est l'ensemble de ceux qui vivent dans la maisonnée, c'est-à-dire le père, les enfants, d'autres parents, mais aussi des esclaves et aussi même des clients du citoyen. Donc, ces soins sont délégués parfois à d'autres personnes que la mère. Et je crois que c'est très intéressant de voir ce que les archéologues ont mis en valeur sur les soins de la mère enceinte, l'accouchement et ensuite tous les gestes qui font que l'enfant va être accueilli, intégré dans la maison. C'est un sorte de premier rite d'accueil.
C'est ça, il y a tout un rituel qui a lieu juste après la naissance,
juste après
qui est très important.
Très important.
Qu'est-ce qu'il dit ce rituel ?
Alors, c'est la sage-femme qui aide la mère à accoucher et la sage-femme pose le bébé par terre sur le sol. continue à prodiguer quelques soins à l'accouchée et ensuite retourne vers l'enfant pour l'examiner. Elle procède à un examen extrêmement sérieux du corps du bébé, à même le sol. Elle est accroupie par terre et elle regarde le bébé. Les yeux, les orifices, et elle regarde que l'enfant est bien conformé, qu'il est viable. Et ensuite, elle procède à la coupure du cordon ombilical. D'ailleurs, plutôt avec un tesson de verre ou plutôt qu'une lame tranchante, comme le recommandait pourtant le médecin Soranos d'Éphèse.
Donc, une fois qu'elle s'est assurée que l'enfant était viable,
alors elle le présente à la mère et ensuite le père parle et dit oui, en quelque sorte, nous allons élever l'enfant, nous allons lui donner des soins. Si au contraire il n'est pas désireux de garder cet enfant parce qu'il ne voulait pas de cet enfant, il peut prendre la décision de l'abandonner. Et l'abandon consiste à exposer l'enfant, c'est-à-dire le placer dans la rue, n'importe où, devant un temple, etc.
Alors ça, c'est un procédé dont on parle beaucoup, le procédé de l'exposition. C'est quelque chose qui est très fréquent ou qui reste finalement assez rare?
Non, ça n'était pas du tout la norme. Sans être extrêmement rare, c'était quand même des gestes que ne faisaient pas souvent les pères. Même si l'abandon, effectivement, existe. Mais ces enfants exposés pouvaient être recueillis par des familles qui n'avaient eux-mêmes pas d'enfants, par exemple.
Céleste, fille du poète, la vie est un hymne à deux voix. Son front sur le tien se reflète, sa lyre chante sous tes doigts. Sur tes yeux, quand sa bouche pose le baiser calme et son frisson, sur ta paupière blanche et rose, le doux baiser a plus de son. Dans ses bras, quand il te soulève pour te montrer au ciel jaloux, on croit voir son plus divin rêve qu'il caresse sur ses genoux. Quand son doigt te permet de lire les vers qu'il vient de soupirer, on dirait l'âme de sa lyre qui se penche pour l'inspirer. Il récite. Une larme brille dans tes yeux attachés sur lui. Dans cette larme de sa fille, son cœur flèche, ses doigts.
Les enfants étaient dans le quartier, je dirais, des femmes, que ce soit à Athènes ou à Rome. Alors, je voulais attirer l'attention des auditeurs sur le fait qu'il y a un décalage entre certains écrits, par exemple, des philosophes, et les pratiques réelles. Par exemple, chez certains philosophes, on voit que les enfants étaient quasiment élevés en communauté, dans une sorte de nourricerie, de crèche. En fait, quand on voit des écrits philosophiques un peu plus tardifs, on voit bien que le modèle essentiel, c'est un modèle nucléaire, une famille conjugale avec enfants, femmes, mari et esclaves aussi.
Même quand il s'agissait d'une famille de la haute société.
Oui, tout à fait. Les premières années de l'enfant se passaient du côté des femmes, mais l'enfant était progressivement intégré. Il y avait un processus d'intégration qui était à plusieurs étapes. Par exemple, le premier processus d'intégration, c'était la dation du prénom. Au 8e jour pour les filles, au 9e jour pour les garçons dans la société romaine. Il y avait un autre rite d'intégration plus tardif qui était une fête à Athènes. Les enfants, garçons et filles, participaient à cette fête avec une petite tunique, mais on leur avait mis aux bras, aux pieds, autour du cou, des amulettes, des bracelets, etc. C'était vraiment leur fête. Et là, ils intégraient véritablement la société de la cité.
À partir de quel âge, là, à peu près?
Vers 2-3 ans, 3 ans plutôt. Et on a beaucoup de témoignages de ces cérémonies sur des petites cruches peintes au 4e, 5e siècle. Et ça, c'est une découverte formidable des archéologues qui ont montré qu'à travers ces poteries, on pouvait retracer la vie d'un enfant à Athènes ou à Rome un peu plus tard.
On dit que l'âge de raison, c'est 7 ans, Catherine Rollet. Dès l'Antiquité, on commence à considérer qu'un enfant de 7 ans est déjà doué de raison.
Oui, tout à fait. Il sort là de... D'abord, il sait parler, bien sûr. Et puis, c'est aussi le moment où il peut aller à l'école. Évidemment, les enfants de citoyens. Ils vont suivre les leçons d'un maître. Ils vont apprendre, comme à l'école primaire, à, à lire d'abord, à écrire ensuite et à compter.
À l'extérieur de la maison.
À l'extérieur de la maison, oui. Sauf chez les plus grandes familles, ça a perduré jusqu'au 19e siècle, y compris en France, chez les grandes familles où il y avait un précepteur à la maison. Sinon, c'était un magistère, un maître d'école à l'extérieur.
Est-ce qu'on a une idée des jeux que pratiquaient les enfants pendant l'Antiquité ?
Oui, tout à fait. Là aussi, c'est une découverte formidable. Les enfants avaient des petits jouets et les premiers jouets, c'était des hochets en poterie dans lesquels on avait placé des petits cailloux. Un peu plus tard, on a des toupies. Non pas des billes, parce que les billes semblent ne pas avoir existé sous l'Antiquité, mais les enfants jouaient avec des noix et puis des poupées.
Est-ce qu'on a une idée du type d'attachement que les parents manifestent à leurs enfants ? Est-ce qu'il y a de la tendresse ? Est-ce qu'il y a de l'affection ? Ou bien, comme on se l'imagine parfois, ce sont des sociétés très dures où l'enfant, étant donné le taux de mortalité, on ne s'y attache pas.
Oui. Je crois qu'on a eu beaucoup d'idées fausses. En opposant en quelque sorte tous les siècles qui ont précédé le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières en Europe, et ce siècle des Lumières justement, en ramenant en quelque sorte le passé à des sociétés qui n'exprimaient pas, ni d'ailleurs dans les rapports conjugaux, ni entre parents et enfants, des sentiments. En fait, bien sûr, la société acceptait par exemple que les pères exposent éventuellement leur enfant. L'infanticide existait également.
Légal ?
L'infanticide était toléré. Bon, ensuite, au cours des premiers siècles, enfin à partir du 3e, 4e, 5e siècle, l'infanticide sera puni. Mais les archéologues et les témoignages épigraphiques montrent beaucoup de signes de tendresse exprimés par des pères et par des mères à l'égard de leurs enfants. Alors peut-être que cette tendresse s'exprime d'autant plus que l'enfant a un peu grandi. Cette tendresse est moins exprimable quand l'enfant meurt en naissant ou quand l'enfant meurt à 6 mois. Donc, je pense que, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans doute les manifestations de la tendresse au sein de la famille ou hors de celle-ci ont changé à travers le temps. Et peut-être qu'on n'a pas toujours les moyens de décrypter la façon dont cette tendresse, ce sentiment s'exprimait.
Merci beaucoup, Catherine Rollet. On vous retrouve demain pour poursuivre.